Oui, ben, ok, ma auditis, etc. Vous écoutez la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. La carte d'auditeur, c'est 100 francs, non, 20 euros en vente à la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amelot. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps pour que 75 trains démarrent de la gare Saint-Lazare. C'est le temps pour que 5000 voyageurs transitent à la station Châtelet-Léal. C'est le temps pour que, de votre côté, vous inspiriez et expiriez 675 litres d'air, ce qui correspond peu ou prou au volume des chiottes dans lesquelles vous êtes peut-être actuellement. Une heure et demie, c'est le temps que la ministre de l'écologie démissionne et remissionne. Une heure et demie, c'est le temps qu'en France soit dispersé 87 kilos de glyphosate. Une heure et demie, c'est le temps que plusieurs centaines de personnes de la région de Bordeaux soit déplacé, relogé. On appelle ça le dérèglement climatique. On appellera ça peut-être bientôt des réfugiés climatiques. Sauf que c'est le temps aussi qu'à l'enclave espagnole de Ceuta arrivent des... On ne les appelle pas des réfugiés climatiques, on les appelle des migrants. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Allez, quelques petits... Je me souviens que Gilles avait un jour renversé par erreur son terrarium où il élevait des phasmes, des araignées et des blattes. Il avait tout ramassé sauf quelques œufs tombés entre les lattes du plancher. Il avait dû passer l'aspirateur avant de partir en vacances pour s'éviter la très mauvaise surprise de son retour, mais ce ne fut pas suffisant, il y en avait partout. Je me souviens que Patrick avait été l'un des premiers au village à avoir la télé. Faut dire qu'il l'avait câblé lui-même, lampe, gros condensateur, bobine et tube cathodique. Il en avait d'ailleurs construit trois. La première, installée dans le séjour, calée sur la deuxième chaîne. La deuxième, installée sous la véranda, calée sur la première chaîne. Et la troisième, dans sa propre chambre, calée sur rien du tout. Il n'y avait pas encore de troisième chaîne de toute façon, car elle s'obstinait à ne pas fonctionner. Et cette troisième télé finit d'ailleurs avec un bocal à poisson rouge à la place du tube cathodique. Je me souviens qu'on gueulait « Allô, allô, il y a de la merde dans le tuyau ». Je me souviens de Saint-Marin, Andorre, Liechtenstein, Nauru, Tuvalu, Saint-Martin, le Vatican, Palaos, Samoa, Antigua et Barbuda, Kiribati, Sainte-Lucie. Mais je ne connais personne venant de ces 12 pays, puisque à eux tous, ils ne représentent pas plus que 2 arrondissements parisiens. Ah si, quand même, si. J'ai eu 2 de mes anciennes élèves qui venaient de Monaco, et il me semble qu'au Vatican, il doit y avoir un mec qui s'appelle le pape. Je me souviens que quand Christian et Gisèle ont voulu s'installer à Liévin, ils ont fait bâtir sur un petit terrain en friche car on leur avait fait comprendre qu'un mineur ne pouvait pas habiter dans le quartier pour lequel il avait craqué. Et c'était celui des Porions. Et encore moins dans le quartier des Contremaîtres. Par la suite, 4 de leurs enfants ont fait l'école des mines de Douai et Gérard s'est ainsi vu proposer par les charbonnages un logement à l'autre bout de la ville de Liévin, 2 étages avec un grand terrain dans le quartier des ingénieurs. Je me souviens que la mère de Nicole avait été retrouvée par les employés du Carrefour se promenant dans les rayons en répétant en boucle « Je dois faire les courses pour l'anniversaire de mon grand-père » et tentant de calculer le total de ses achats sur une télécommande de téléviseur qu'elle prenait pour une calculette. C'est d'ailleurs sur l'étiquette au dos de cette prétendue calculatrice que la gérante de la supérette a pu lire le numéro de téléphone de l'EHPAD dont elle s'était barrée à 3 km de là. Je me souviens qu'on m'a traité de multiples fois de con, de pauvre con, de jeune con ou de vieux con, parfois dans le mauvais ordre chronologique, de sale con et même une fois, t'es proprement un sale con, de brave con, ah, j'y ai peut-être vu de l'affection, de fieffé connard, de grand con même quand j'étais petit, de petit con même quand j'étais juste balourd et même de petit con de la dernière averse, mais juste pour le plaisir entre émules de Brassens, de connards, de corgnaux, de gros cons, de crétins parfois même alpins, d'andouilles et même de bougres d'andouilles, ça c'était en famille, de pauvres cons ou de pauvres types, une fois que j'avais le dos tourné, de face de paix ou de trou du cul même en vis-à-vis. D'ailleurs, on insulte, le trou du cul est petit, mais le tas de merde est gros. De ratés, de résidus de fausses couches, de raclures de baignoires, de tranches de cake, de triple buse, d'ectoplasmes, de moulins à gaufres, de bachibouzouk, de sapajou, de marins d'eau douce, d'australopithèques. Mais alors ça, c'était seulement par Yves, qui était un amateur lettré du capitaine Haddock. Je me souviens que Daniel disait, dans la vie, rien n'est tout à fait noir, ni tout à fait blanc. Et il ajoutait, sauf quand même le boudin. Je me souviens de mouche ton nez et dit bonjour à la dame. Je me souviens que Kevin disait se sentir parfois comme une porcelaine dans un magasin d'éléphants. Ah si, 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 dans cet ordre-là. Je me souviens que pour obtenir un statut pour l'organisation de spectacles, Patrick avait d'abord créé l'Association pour une pensée humaine et rationaliste, et avec un petit sourire, il a donné l'acronyme l'APPHR. Je me souviens de parler moustache de plexiglas. Je ne me souviens plus du numéro qu'il fallait composer sur un téléphone fixe pour connaître précisément le numéro du dernier correspondant qui avait tenté de vous joindre en votre absence. Je me souviens qu'après avoir découpé le roast beef au couteau électrique, ah, ça date ça, Elisabeth était venue demander à mes parents s'ils voulaient leur tranche dans la même assiette que les pommes de terre ou à part avec de la sauce. En repartant dans la cuisine, elle avait croisé Wolfon, son berger allemand, grondant de plaisir, et ce pour les champs, les babines. Mais elle n'avait plus retrouvé la viande dans le plat. Tiens, avec le recul, à moins que ce ne fût finalement une fable servie aux invités et qu'il n'avait jamais existé, ce roast beef à 190 francs. Je me souviens qu'après avoir sorti du réfrigérateur la tarte au citron meringuée et avoir découpé des parts, Noémie était venue nous demander qui voulait de la crème anglaise avec. En retournant dans la cuisine, elle avait croisé Zinzibule, son chat, vibrisses et moustaches couvertes de meringue et de chantilly, se léchant les pattes. La tarte au citron meringuée a fini sur le compost et nous nous contentâmes de la crème anglaise et encore... Pas très rassurée, n'était-elle pas restée à portée de coussinet ?
Elle est morte, la voisine, dans sa modeste cuisine, impeccablement cirée. Connaissait très bien, on le supposait du moins, lorsque l'on a retrouvé dans un vieux cahier de toile noire, elle avait noté son histoire pour un inconnu qui la comprendrait. Mais le temps qu'on le trouve et le lise, sa petite écriture grise s'est effacée avec son secret. Elle était veuve, dit-on, d'un médecin du canton, unanimement aimée. Elle en parlait rarement, mais sur sa tombe elle allait chaque soir depuis 10 ans. Elle avait voulu peindre leur amour. Il en reste quelques fleurs séchées, une larme délavée. Le reste est mort pour toujours. Elle était belle, dit-on, lui était fidèle et bon, et banalement heureux.
On ne les remarquait pas. Maintenant qu'ils ne sont plus là, on voit qu'ils nous manquent un peu. Dans le vieux cahier de toile noire, j'ai voulu lire leur histoire, comprendre leur bonheur discret. Mais le temps qu'on le trouve et le lise, la petite écriture grise s'est effacée avec leur secret.
Marie-Paul Bell qui nous a quitté la semaine dernière, chanson des débuts de l'époque, Grisolia et Mal et Joris. Je me souviens d'être allé une fois interviewer Marie-Paul Bell, j'avais dit à l'attaché de presse, bah écoutez, oui je passerai et je l'interviewerai le 24 après le spectacle. L'attaché de presse m'avait dit, le 24, vous êtes sûr? Bah oui, ce qui est bizarre peut-être effectivement parce qu'on était au mois de décembre, ce qui fait que le 24 décembre était peut-être une date un peu particulière et de fait dans la salle, nous étions trois et au premier rang, il y avait justement Madame Malé-Joris. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. En guise de créatures, aujourd'hui, c'est on vous offre des textes. Et alors, Ariel est excusé parce qu'il accompagne Elsa et Gioelle qui se rendent en Italie. Donc Elsa et Gioelle sont également excusés. Sophie reviendra à partir de la rentrée. Donc si vous marquez avec des petits bâtons sur un calepin, eh bien vous en déduisez que dans le studio, il y a celui qui attrape toujours un livre avant de partir de chez lui. Et à mon avis, il en a quand même pas mal chez lui, c'est Michel. Salut Michel.
Salut. Oui, cette fois-ci J'ai apporté un livre que je garde depuis longtemps. Ça s'appelle Manuel de l'arbre. Et c'était édité par le Touring Club de France. Et c'est l'édition de 1933. Alors, c'est la huitième édition, hein, 1933. C'est comme quoi c'était un livre éducatif pour les écoliers. Et qu'à l'époque, on parlait des arbres aux écoliers dans les écoles. Ça, à mon avis, c'est plus trop le cas. C'est dommage.
Oui, heureusement, les arbres sont en train de revenir dans les cours d'école quand même. Ah. Il me semble que c'est une bonne initiative avec le temps qu'il fait. De mon côté, je vais rattraper le coup par rapport à une émission qu'on avait faite avec Jean-Daniel Belfond, qui était venu dans ce studio, a priori au départ invité par Laurent pour parler d'un bouquin qu'il avait sorti sur Anne Sylvestre, de la même façon qu'il avait précédemment sorti un bouquin sur Barbara l'ensorceleuse, Anne Sylvestre la sorcière. Mais pour l'émission en question, on s'était retrouvé à parler de choses et d'autres, à évoquer Chobit des Big Tabac et autres trucs de ce genre-là. Ce qui fait que le bouquin, on n'en a quasiment pas parlé, donc là, je l'ai rapporté par-devers moi et j'ai rapporté également Coquelicot et autres mots que j'aime, un recueil de textes que Madame Beugras, Madame Sylvestre, a pondu dans le cadre d'une collection dirigée par Philippe Delerme. Donc c'est des petits détours par un choix de différents mots avec à chaque fois des petites digressions. Sylvestre, dessous de scène, Michel, je ne vais pas te donner tout de suite le micro parce que je vais en profiter pour passer un morceau que je t'ai réclamé, un morceau de
Gilles Maire. Paroles et musique.
Voilà, et j'avais eu envie, il y a de cela 3 semaines ou quelque chose comme ça, d'ouvrir sur ce morceau, parce qu'on était sur la première, deuxième, troisième, quatrième vague de chaleur, de canicule, on appelle ça poliment le réchauffement climatique.
Au début, ils disaient qu'on allait se réchauffer. Les savants nous parlaient d'un air catastrophé. Ils nous montraient des ours mourant sur la banquise. Ils avaient annoncé le début des heures de crise. Ils disaient qu'on aurait un désert à Marseille, que bientôt à Paris, il ferait toujours soleil. Mais un jour en hiver, il s'est mis à neiger nuit et jour jusqu'au mois de juillet. Du Kilimandjaro jusqu'au nord de l'Irlande, le climat est devenu pire qu'au Groenland. Heureusement que sur les pôles, toute la glace a fondu, car c'est là-bas que tous les hommes se sont rendus. Moi qui aimais Paris, j'ai pas voulu partir. Je vis dans un igloo vers la rue des Martyrs, à 100 mètres au-dessus d'une calotte de glace, d'où l'on voit que le sommet de la tour Montparnasse. C'est inouï qu'à Paris, on vive comme des Inuits, que les sans-abri émigrent, les Parisiens en fuite. De temps en temps, l'on voit des convois de scientifiques qui viennent pour comprendre les changements climatiques. Il paraît que sur l'épaule, on se tape pas sur l'épaule, que c'est la guerre tout le temps qui se bat pour du pétrole. C'est pas demain la veille que je quitterai mon igloo. J'ai bien peur que leur monde ne vaille plus un clou. Au début, ils disaient qu'on allait se réchauffer. Les savants nous parlaient d'un air catastrophé. Ils nous montraient des ours mourant sur la banquise. Ils avaient annoncé le début des heures de crise. Ils disaient qu'on aurait un désert à Marseille, que bientôt à Paris, il ferait toujours soleil.
89,4 MHz, c'est la fréquence 145 rue Amelot. C'est l'adresse pour nous écrire, pour nous rencontrer et pour acheter votre carte d'auditeur. Et 37 degrés, c'est votre température intérieure. Mais maintenant, 37 degrés, c'est aussi votre température extérieure. Michel, qu'as-tu donc à nous proposer pour commenter?
Là, j'ai un petit récit, on va dire ça comme ça, parce qu'on parle aussi d'une éclipse prochaine, alors j'en profite. C'est donc issu de ce livre d'Émile Cardo, Manuel de l'Arbre. La monnaie d'argent et l'éclipse. Le petit Paul se promenait avec son père sous l'ombrage des grands arbres qui entourent leur maison. Perçant la voûte obscure du feuillage, des rayons de soleil arrivaient jusqu'au sol et y formaient des taches rondes, brillantes, qui se déplaçaient à chaque souffle de la brise dans les branches. « Père, disait-il, c'est comme de la monnaie d'argent. Eh bien, mon fils tâche de la recueillir. » Et le petit Paul s'avançait, son tablier largement ouvert. Les taches remplissaient bien le tablier, mais dès que l'enfant voulait s'en aller pour apporter sa précieuse récolte, la monnaie brillante retombait au sol, sur le sol, et le tablier redevenait vide. Et l'enfant s'obstinait, tour à tour, se fâchant ou pleurant de ne pouvoir réaliser son désir. Quelques années plus tard, le père et l'enfant se trouvaient de nouveau sous le couvert des arbres. C'était le 30 août 1905, à 1h de l'après-midi, le jour de l'éclipse. Ils venaient d'observer celle-ci en regardant le soleil avec un verre enfumé. Paul s'écria tout à coup, « Père, regarde donc la singulière forme qu'ont aujourd'hui les taches de soleil. Oui, mon fils, elles ne sont plus rondes aujourd'hui, elles ont la forme d'un croissant, la forme même du soleil telle que tu viens de la voir sur le verre enfumé. La forme du soleil est partie masquée par le cône d'ombre de la lune et telle qu'elle apparaîtrait dans la chambre noire d'un appareil photographique.
Merde, j'étais en train de caler un truc et j'ai oublié, je me suis fait surprendre, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, parce que j'avais calé le grand chêne de Brassens, mais non, puisque finalement, on peut enchaîner là-dessus.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici, va souvent chacun pour sa lune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit. Papa dit qu'il a vu sa nuit.
Radio Libertaire, 89,4 MHz. Allez, les petits mots choisis par Anne Sylvestre. Un mot au hasard, allez, on ouvre en page 43. Réopold Sébastomur. Ma maman alsacienne possédait dans sa réserve de mots un nom. Un nom invraisemblable, comique déjà dans sa forme première. Était-ce le nom d'un personnage de roman ? Où l'avait-elle croisé ? En avait-elle entendu parler ? Mystère. Toujours est-il qu'elle l'avait gardé précieusement et le ressortait de temps en temps pour nous en faire un jeu. Comme disait-elle, elle l'avait fait souvent avec les amis de sa pension. Et de rire. Il s'agissait de Eusebius Knallwurm. Eusebius Knallwurm. Tourné dans tous les sens, le malheureux devenait ensuite Eusebius Knallwurm. Euseknal Wurmbius, Eubius Nalvesurm, Wurms Knalzebius, etc. au milieu d'éclats de rire. C'est dire que nous étions rompus à cette sorte de gymnastique. Mes deux frères, eux, s'étaient attaqués aux stations du métro parisien. Et auprès du noble Réopold Sébastomur, il y eut Strasny-Sainte-Bourg, Montparnu-Bienvenas, qui ne sonnait pas mal non plus, la mode Pinel Grequet, Fény Chaliderbe et les chutes Beaumont me viennent encore facilement sur la langue. Ah, sans oublier Barchois Rochebès. Ça a de la gueule, non ? Le dimanche, avec ma petite sœur, on allait pique-niquer à Varmes-la-Mallet ou à Saint-Èche-la-Brenon, nommé parfois aussi Saint-Brèche-la-Tenon. J'ai moi-même perpétué cette tradition à la maison, avec mes filles réclamant couramment les plumes léguches ou le birtouchon, la momotte quinute ou le gras de platin, avant de m'en aller chanter à Charlesières-Méville ou à Fermont-Clairon. Le tout sans trempette ni bon tour.
On se trouve un peu moins tarte, qu'on se regarde sans horreur, quand les affaires enfin repartent, quand ça gratouille côté cœur, quand on a fait tous les régimes et qu'on a perdu ses coussins, ça serait carrément un crime de ne pas exploiter le terrain. Bref, on va pouvoir vivre un peu regarder l'avenir en bleu. C'est alors qu'arrive une blonde. En deux secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haie. Toujours il arrive une blonde et on la hait. On n'est pourtant pas repoussante, on s'est épilé les mollets. On a l'incisive éclatante, l'œil crayonné, les ongles faits. Petit boudin, grande saucisse, même combat, même drapeau. Grand échalas ou courte cuisse, la séduction ou le tombeau. On se met dans tous nos états pour émerger un peu du tas. C'est alors qu'arrive une blonde. Deux secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haie. Toujours il arrive une blonde et on la hait. Bien sûr il y a les teintures, mais le problème n'est pas là. La blondeur c'est une nature, on est blonde ou on ne l'est pas. Elles ont la beauté bien heureuse, on les regarde c'est normal. Tandis que nous les besogneuses on brille, mais on a du mal. À nous barrettes et chapeaux, autant dire les grands travaux. C'est alors qu'arrive une blonde. En deux secondes, le ciel s'obscurcit. Il suffit qu'arrive une blonde pour que le monde entier nous oublie. Plus personne qui nous réponde, ils sont là qui lui font la haie. Toujours il arrive une blonde et on la hait. Quand plus rien ne nous console, ni qu'on se roule à nos genoux, ni qu'on nous jure, on est folle, qu'ils sont tous amoureux de nous. Que d'ailleurs les blondes on s'en fiche, et qu'on préfère les boudins. Marilyn c'est de la triche, et qu'elle était même pas bien. On essaye d'y croire un peu, mais on sent que c'est pas sérieux. Alors on imagine un monde peuplé de blondes. Ça serait joli s'il n'y avait plus à la ronde rien que des blondes. On le saurait aussi, plus de jalousie vagabonde. À nous aussi, il ferait la haie. Alors on se fait teindre en blonde et on se hait.
Là, on est effectivement dans la veine assez loufoque d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, ben tiens, d'ailleurs, oui, c'est au moment de son album Blonde que je l'avais interviewée. Après, je l'ai recroisée pas mal parce que elle allait beaucoup voir les spectacles des autres, mais ça avait mal commencé pour moi avec cet album parce que l'attaché de presse, appelons-la Michel ou Lou, s'était planté, ce qui fait que j'attendais Anne Sylvestre. À l'époque, l'émission devait être le jeudi et moi le jour où je dois faire l'émission avec Anne Sylvestre, je l'attends au studio sur la butte Montmartre, là où étaient les anciens studios de Radio Libertaire, et je vois pas débouler d'Anne Sylvestre. Donc on fait l'émission à partir du disque en passant les morceaux, et puis dans la foulée j'appelle l'attaché de presse qui m'engueule immédiatement quand je l'ai au bout du fil et qui me dit oui, Anne s'est pointée au studio et on lui a dit qu'il y avait pas d'émission, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et Anne Sylvestre s'était pointé au studio le mercredi alors que l'émission était le jeudi. Voilà, donc mon premier contact avec Anne Sylvestre fut un peu rapide, mais le deuxième contact, d'ailleurs il me semble que c'était un peu le cas pour tous les journalistes, on se retrouvait à être un peu envoyé bouler parce que immanquablement, allez, je lui sors, tiens, Anne Sylvestre, on t'a appelé la Brassens en jupon à une époque. Et elle me sort bien évidemment, oui, et je cherche toujours le Sylvestre en caleçon. Mais là où j'ai complètement gaffé, c'est quand je lui ai posé la question, mais Anne-Sylvestre, comment as-tu fait pour conjuguer ta carrière et tes filles, puisque... Et là, elle m'a dit, si j'avais été un chanteur, tu m'aurais posé la même question. C'est bien triste que même sur Radio Libertaire, on pose cette question-là. Et effectivement, je me suis retrouvé tout con. Et autre mauvais souvenir, enfin, souvenir raté comme ça d'interview avec Anne-Sylvestre, on se retrouve à parler de son deuxième visage dans le domaine de la chanson, les Fabulettes, qui faisaient la joie dans les différentes écoles, mais faisaient un peu la déception d'Anne-Sylvestre dans la mesure où, quand elle faisait un spectacle, eh ben, il y avait des gens qui rappliquaient avec leur gosse en disant « Viens, on va voir la dame qui chante les Fabulettes » et s'attendait à ce qu'elle chante les Fabulettes. Et là, elle attaquait « Qui c'est qui fait la vaisselle pour pas que ça se perde? Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde? Ça fait rien, on change rien, c'est toujours la faute à Ève, etc. » Chanson militante s'il en est, etc. Et là, ben, les petits-enfants étaient un peu surpris, rigolaient. Mais bref, donc le visage Fabulette, Anne-Sylvestre, le mettait un peu de côté, et moi, je fous les pieds dans le plat en lui disant « Mais tu sais, moi j'ai beaucoup aimé tes Fabulettes quand j'étais petit. » Et là, elle m'a regardé en disant « Bon, Nicolas, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu me balances à la gueule? Tu me donnes quel âge maintenant ?» Voilà, ça c'était mes contacts avec Anne, mais je vous passerai d'autres choses dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, mais évidemment, un dessous de scène ne peut pas se faire sans un petit cadeau de Evelyne Blanche, non, une ligne blanche, non, Evelyne ou Jean-Marie, Evelyne et Jean-Marie, on va bien voir. Non, là il me semble que c'est un poème de Marie Ordinis, de poèmes en gros, demi-gros et détails, proposé par Evelyne.
De Marie Ordinis, paume. C'est avec sa paume, cette colline déchiffrable, d'où prend racine le pouce opposable, n'est-ce pas, aux autres doigts issus de montagnes moindres, tourmentées de nervures bruyantes. C'est avec sa paume, les doigts rassemblés, ne pas pointer l'index, ne pas écarteler les doigts en des gestes répertoriables. C'est avec le socle de la main, pressant tes yeux, brûlant de larmes, qu'il apprivoisera ton visage. Marie Ordinis.
Voilà un texte de Marie Ordinis que j'ai connu par l'intermédiaire de Vincent Jarry. Vincent Jarry qui m'a fait connaître Evelyne et Jean-Marie, puisqu'ils s'étaient associés à certains de ses spectacles à Arcueil et ailleurs, et au feuilleton qu'il nous livrait sur l'antenne de Radio Libertaire, Les Belles Rencontres entre la princesse Panthère Douce et la Aide Le Gland. Et c'est par l'intermédiaire de Jean-Marie que j'ai connu Michel. Ben Michel, tu es là dans le studio avec un livre devant toi, je t'en prie.
Oui, alors le seul lien avec la chanson d'Anne-Sylvestre de tout à l'heure, c'est que je parle de l'histoire des forêts de France grâce à un livre très, comment dire, très scolaire, hein, je vous le préviens tout de suite. Hein. Mais au moins, ça avait le mérite d'exister en 1933, et c'était la 8e édition. Alors voilà. Pendant longtemps, dans nos pays européens, et notamment en France, on a négligé d'appliquer aux forêts ce principe de l'aménagement. Les grands massifs forestiers, qui dans l'ancienne Gaule couvraient la majeure partie de son territoire, étaient livrés au pillage de tous, non seulement leurs limites reculaient sans cesse, mais par l'abus des exploitations et le ravage des troupeaux, et parfois du gibier, leur production ligneuse allait sans cesse en s'amoindrissant. Il faut un siècle et plus pour former un arbre. Que devient dès lors un massif de hautes futaies si, après l'exploitation, on ne lui laisse pas le temps de se reconstituer, ou si les animaux, bétails et gibiers viennent sur le parterre de la coupe brouter tous les jeunes plants qui tenteraient de se développer? Le bois se transforme peu à peu en un fourré de broussailles et en une lande stérile. Et la source de tous ces profits et salaires que donne la forêt est pour longtemps tarie. Heureusement, des plaintes commencèrent à s'élever en France contre ces destructions imprudentes. Écoutez ce qu'en a dit un homme dont vous avez appris à connaître le nom, un des grands noms de notre pays, Bernard Palissy. C'est, dit-il, non une faute, mais une malédiction et un malheur à toute la France, parce qu'après que tous les bois seront coupés, il faut que les arts cessent et que les artisans s'en aillent paître l'herbe, comme dit Nabuchodonosor. Ces plaintes finirent par être entendues, peu à peu. L'autorité royale, les pouvoirs seigneuriaux et les parlements de province rendirent des ordonnances ou édictèrent des règlements pour faire cesser les abus. On organisa les maîtrises forestières, dont les officiers avaient charge de régler et de surveiller les exploitations, de réprimer les délits. Un peu d'ordre naquit peu à peu de ces sages mesures que deux grands ministres cherchèrent à rendre plus efficaces et à compléter. Sully, par ses sages prescriptions, et Colbert, par sa fameuse ordonnance de 1669, qui fut notre dernier code forestier. C'est Colbert qui, dans sa préoccupation de développer notre marine, est frappé de la difficulté de plus en plus grande qu'elle rencontrait pour se procurer les bois nécessaires à la construction de ses navires, prononça la parole célèbre « La France périra faute de bois ». De grands savants, Duhamel, de Monceau, Réaumur, Buffon, des officiers de maîtrise forestière, des propriétaires de bois, Varennes de Fenille, se mirent à étudier les arbres et les forêts et à répandre les premières notions de l'arboriculture et de la sylviculture. Mais dans la plupart des régions de la France, par l'ignorance des uns, la cupidité des autres, encouragée encore par le haut prix que la disette croissante donnait au bois, les dévastations continuaient et au moment de la Révolution, les cahiers présentés aux États généraux étaient remplis de doléances sur les maux résultant de la ruine des forêts. Le désordre qui accompagna notre grande tourmente révolutionnaire, en laissant les bois livrés sans défense à la convoitise des populations riveraines, vint encore aggraver la situation, et si quelques mesures réparatrices furent prises sous le Consulat et le Premier Empire, les grandes guerres qu'eut à soutenir la France à cette époque en neutralisèrent en partie les effets. Il faut en venir jusqu'aux dernières années du gouvernement de la Restauration pour que des dispositions législatives vraiment efficaces soient prises en vue de modérer le défrichement des bois particuliers et d'appliquer aux forêts de l'État, des communes et des établissements publics une gestion régulière basée sur les principes de l'aménagement et de la sylviculture. En 1824 fut créée l'École forestière de Nancy. Les noms des deux grands forestiers, Lorenz et Parades sont attachés à la fondation de cet enseignement. En 1827 fut promulgué le Code forestier qui prescrit l'aménagement de toutes les forêts publiques, organise leur gestion et leur surveillance et édicte des peines pour la répression des délits forestiers. Voilà. C'est vieux tout ça.
Quand je serai vieux, je serai un arbre vieux, décharné dans l'air. Je serai un vieil arbre solitaire. Solitaire, comme cet homme, comptoir du bar, écrasé de son long sommeil mouvant, de ses rêves sans issue, qu'il est toujours seul à rêver. Quand je serai vieux, je serai un arbre vieux, décharné dans l'air. Je serai un vieil arbre solitaire. Tourmenté des pluies, lourde, ballottée des vents. Desséchée par un dur soleil de midi, je serai l'arbre du haut de la butte. Je serai l'arbre du haut de la butte.
Radio Libertaire 89,4 MHz, ça c'était un extrait d'un album de Gilles Elbaz qui s'appelle précisément Le Miroir de l'Arbre. Je me demande si c'était pas même un double album à l'époque, en 1972, avec Siegfried Kessler pour l'accompagner. Gilles Elbaz, qui adorait effectivement les musiques bizarres, diront certains, le jazz qu'il avait découvert quand il était enfant en Normandie avec les troupes américaines qui stationnaient là. Et Gilles, ben, c'était un grand tortureur de mots, un grand magicien des choses bizarres, et ben, je ne puis que regretter de ne l'avoir pas connu assez longtemps. Allez, Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Comme je vous le disais, pour ma part, je me promène dans Coquelicot et Autres mots que j'aime d'Anne Sylvestre avec, allez, au hasard, page 119, le mot grenouille. Il est amusant, composite, ce greu comme un grondement, suivi de nouilles à la sonorité molle, fluide et résolument comique. En lui cherchant une rime, on tombe parfois sur des choses hilarantes et déconseillées. Le mot lui-même, grenouille, est évocateur. On pense à une petite chose verte qui fait des bonds de nénuphar en nénuphar, qui fait des ploufs, qui hante les dessins animés et les livres pour enfants. Et pourtant, pour moi, il en fut tout autrement. Ma première grenouille fut comme un cauchemar. Je m'en souviens encore avec horreur. Je devais avoir 11 ans et je passais mes vacances dans un petit village au bord de la Saône. Je m'en allais retrouver ma copine Josette, la fille des voisins. Je la trouvais avec sa mère sous le hangar où, sur une table en bois, elle préparait des grenouilles. C'est-à-dire qu'avec un couteau, elle les tranchait par le milieu pour ne garder que les fameuses cuisses, laissant la tête et les pattes avant de continuer d'avancer, traînant derrière elle les entrailles sanguinolentes. La petite parisienne que j'étais se sauva, blême, le cœur faisant le yo-yo sous les moqueries de la fermière. Par la suite, apprenant ma mésaventure, on s'ingénia à me glisser des grenouilles dans les poche, dans le cou. Avec le recul, je pense avec tristesse qu'il est trop facile de créer une phobie chez un enfant sensible, et ce sont véritablement des tortures qu'on lui fait endurer en se moquant de lui. Je ressens encore le frisson de la petite citadine, si peu préparée à ces brutalités campagnardes. Cependant, pas rancunière, ça ne m'a pas empêché de glisser ces bestioles dans mes chansons. Elles sont si jolies quand elles ne sont pas réelles.
Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Qu'est-ce qu'elle a donc fait pour s'envoler à tire-d'aile? En poussant son cri pointu, hirondelle, où t'en vas-tu? En poussant son cri pointu, hirondelle, où t'en vas-tu? Hirondelle belle, en enfilant les aiguilles de bois, sans le sentir, me suis piqué le doigt. Sans le sentir, j'ai perdu mon enfance. Elle s'enfuit quand la peine commence. En enfilant les aiguilles de bois, oui, j'ai perdu mon enfance, je crois. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Même si c'était vrai, fallait pas lui couper les ailes. Va tes petits sacs de blé, tu les auras bien payés. Va tes petits sacs de blé, tu les auras bien payés. Hirondelle belle, En enfilant les aiguilles de bois, j'avais un cœur, on me l'a mis en croix. On l'a cloué sur les portes des granges, et l'hirondelle en chouette se change. En enfilant les aiguilles de bois, voici mon cœur, tout le monde le voit. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Moi, je me cachais, je jouais pas à la marelle. Elle en a le cœur tout froid, l'hirondelle au fond du bois. Elle en a le cœur tout froid, l'hirondelle au fond du bois. L'hirondelle belle, en enfilant les aiguilles de bois, ma peine marche aussi vite que moi. Quand j'ai couru, elle a suivi sereine. Quand je m'arrête, elle attend que je vienne. En enfilant les aiguilles de bois, que l'on enterre ma peine avec moi. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Qu'est-ce qu'elle a donc fait pour que son cœur reste fidèle? Qu'on la laisse s'envoler, elle a bien assez pleuré. Qu'on la laisse s'envoler, elle a bien assez pleuré. L'hirondelle belle, en enfilant les aiguilles de bois, oh laissez-moi ce qui reste de moi.
C'était notre séquence Anne Sylvestre avec la petite hirondelle. Nous allons appeler le standard SVP 1111 pour savoir, RL est à vous, nous sommes le samedi après-midi, pour savoir quelle est la catégorie qui maintenant vient en tête dans vos sélections. Nous avons la catégorie polar, mais ça viendra en fin d'émission vers 17h avec Bulle Noire en compagnie de Robert. Mais pour l'instant, dans la catégorie poésie, vous aviez le choix entre les mystères de l'Ouest, amicalement vôtre, ou un poème proposé par Jean-Marie Blanche. Nous appelons SVP 1111 avec Bernard Gollet pour savoir ce qui a été choisi par nos auditeurs. Allô, allô, c'est à vous. Qu'est-ce qui est Jean-Marie Blanche? Eh bien, nous écoutons tout de suite Jean-Marie Blanche sur l'antenne de Radio Libertaire.
Des mots. Je croule sous le poids de mes paroles. Des mots ont pris la place de ma chair. Des mots, lequel de vous est celui qui m'immole? Mots carnivores dont je fais mon univers. Le mot qui court, le mot qui dort, le mot qui plane, cherche dans le silence un visage à voler. J'en possède un qui rampe, c'est le mot iguane. Tous les mots innocents m'empêchent de parler. Je dis le mot azur, c'est ma sainte révolte. Je dis le mot planète et c'est mon désaccord avec moi-même. Oh, oh, que ma rage est désinvolte. C'est du mot que j'attends l'excuse de mon corps. Les mots sont capricieux. J'aime le mot presqu'île. Je le prononce et c'est déjà un animal, une fleur, une pierre. Où est mon domicile? Dans le verbe, la chose ou mon chaos natal? Les mots sont des tyrans. Je ne veux plus me taire. J'écris. J'apprends la poésie par la terreur. J'écris comme le veut mon seul vocabulaire. J'écris, j'écris, j'écris les mots des déserteurs. Pire ou faussaire, c'est par vous que je survis. Vous êtes ma grandeur dans cette déchéance. Mot redouté. Que diriez-vous ce que je pense? Allez, répondez. Répondez. Moi, je n'ai plus d'avis. Je nais. Et je dois mourir. Mais faut-il que je meure avant ma vie, avant ma mort, à chaque pas? Mot grave, mot sérieux, vous ne cachez qu'un leurre. J'ai-je abusé de vous? Je ne vous comprends pas. Je vais mourir. En attendant, où vais-je? Moi qui ne peux sortir de mon poème obscur. C'est ma prison. Je la prolonge ou je l'abrège en moi-même. Et j'ai construit ce mur. Je me suis retrouvé dans un mot. Tramontane. C'est lui qui raccommode un univers brisé. Je n'écris plus pour l'érudit, pour le profane. J'écris par vice. Je suis trop civilisé. Je me suis retrouvé dans le mot Mirabelle. Il mord dans le soleil comme on mord dans un fruit. Je n'écris pas pour le poète, le rebelle. J'écris par insolence. Et je me sais gratuit. Je me suis retrouvé dans le mot bastingage. C'est lui qui me promet le cœur de l'infini. Je n'écris pas pour le prophète, pour le sage. J'écris pour me blesser. Je veux être puni. Alain Bosquet.
Et voilà, ça c'était le petit cadeau de Jean-Marie qui nous écoute depuis Aise et qui nous envoie ses collaborations depuis Aise. Enfin, ça avait été réalisé, enregistré dans nos studios il y a de cela quelques années, à l'époque où on avait nos musiciens avec nous. Aise qui, je le rappelle, est dans la banlieue d'Antibes, si je crois à la chanson de Bobby Lapointe, puisque Antibes, ça me mettait pas à l'aise, moi qui serais plutôt pour. Dessous de scène, il est 16h24, Michel, nous continuons avec ce traité.
J'avais un truc qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure quand tu parlais des grenouilles, parce que je suis un petit peu historien à mes heures, mais alors il faut vérifier les sources, hein, parce que j'ai tendance à faire ma petite cuisine. Mais il se trouve que les Anglais nous appellent les froggies, bon, enfin bref, etc. Alors je me suis demandé pourquoi en vrai, et puis je me suis aperçu que Charlemagne, son blason, c'était trois grenouilles. Et ça dulcinait de l'époque. J'avais dit, tu ne trouves pas que des grenouilles, c'est pas terrible. Bon, tu ne pourrais pas avoir une meilleure idée. Et puis, il ne voulait pas. Ça le dérangeait de changer ce symbole qu'il trouvait. Qu'il aimait bien les grenouilles, quoi. Alors, il y a un artiste qui lui a conseillé d'effacer le bout des pattes. Et puis c'est devenu ce qu'on appelle une fleur de lys aujourd'hui. Et vous verrez que si vous effacez le bout des pattes d'une grenouille, vous obtenez une fleur de lys. Enfin, une fleur de lys, mais une fleur de lys, ça ressemble pas du tout à ça, en fait. Ça, ce qu'on voit, ce qu'on appelle une fleur de lys, c'est plutôt une fleur d'iris. Mais enfin, bon, ils ont appelé ça une fleur de lys, quoi. Et donc, est-ce vraiment vérifiable, tout ça? Est-ce que d'autres historiens aussi... aussi fort que moi avait découvert le poteau rose, je ne sais pas. Mais enfin, je vous offre un petit peu mes rêves comme ça en prime.
Les belles histoires de tonton Michel.
Et donc, j'avais reçu un message d'un ami qui m'a parlé encore des forêts. Alors c'est marrant, je sais pas, il m'a pas dit qu'il l'avait écrit. Alors c'est peut-être lui, mais ça m'étonnerait. Alors voilà. Il s'agit de se plaindre de ce qu'ont fait les... Parce que les forêts d'aujourd'hui... D'ailleurs ce qui a cramé en Gironde, ce n'est pas des forêts, c'est des... C'est des plantations d'arbres absurdes, mais c'est pas, ça ne s'appelle pas des forêts. Bon, et puis en plus, quand on voit que c'est en débroussaillant avec un moteur thermique qu'on a déclaré le feu, faut le faire quand même. Alors voilà l'article en question. Alors que la France panique et brûle sur des incendies historiques qui ont déjà réduit en cendres 115 000 hectares de territoire, le bal des hypocrites est ouvert. Comme à chaque catastrophe, les discours officiels s'empressent de désigner des boucs émissaires, commodent la malveillance des quelques pyromanes, le manque d'éducation des citoyens ou d'absurdes réglementations écologiques qui empêcheraient le nettoyage des forêts au printemps. Ce rideau de fumée politique a un but précis, masquer un scandale d'État et un capitalisme de connivence qui porte une responsabilité biophysique directe dans le désastre actuel. La cause structurelle et criminelle des méga-feux, c'est la poudrière que vous avez construite sur les 17 millions d'hectares de forêt que compte la France. Plus de 7 millions sont des monocultures strictes qui ne méritent même pas le nom de forêt. Pire encore, près de 3 millions d'hectares sont des plantations industrielles de résineux à haute combustibilité, des essences pyrophiles comme le pin maritime et le Douglas. Pour rendre l'échelle de ce désastre visuel, c'est l'équivalent de la superficie de la Belgique qui a été transformée en combustible sur pied sur le sol français. La science et l'observation du vivant démontrent la mécanique implacable de ces usines à bois. La pluie est interceptée par la canopée constante et peine à recharger les nappes, y compris en hiver. Au printemps, ce feuillage persistant bloque la lumière et la chaleur au sol, paralysant l'activité biologique. La décomposition de leur litière acidifie, déstructure la terre en provoquant le lessivage des nutriments essentiels comme le calcium. Faute de décomposition par les micro-organismes, cette couche d'aiguilles inflammables s'accumule indéfiniment au pied des arbres sans s'intégrer. Ajoutez à cela un assèchement profond du sol, une biomasse saturée de résine et d'émissions de terpènes volatiles et un alignement monospécifique continu de ces centaines d'hectares, vous obtenez les conditions physiques idéales pour la perte de contrôle total de feux gigantesques, les parcelles de forêt anciennes et diversifiées de feuillus qui recyclent l'eau et agissent comme des climatiseurs régionaux ont été balayés. Les statistiques européennes sont sans appel. Ce modèle industriel de conifères purs présente un risque d'inflammation accru de 300%, double la probabilité statistique de destruction totale du massif et engendre une vitesse de propagation des flammes 5 à 10 fois supérieure à celle des forêts de feuillus. Ce crime écologique a été financé par l'argent public. Le récent plan de relance forestier de 200 millions d'euros, prétendument conçu pour adapter les forêts au climat, s'est transformé en tiroir-caisse pour les lobbies de la sylviculture intensive. Les chiffres du rapport de l'association Canopée sont accablants. 87% des projets financés ont été des coupes rases. Dans 42% des cas, l'État a payé des multinationales du bois pour raser des forêts de feuillus complexes et saines pour les remplacer à 83% par des monocultures de résineux. Des géants de la filière ont dicté les critères d'éligibilité dans les comités ministériels pour capter les subventions, tandis que le ministère de l'Agriculture refusait toute transparence sur les localisations des parcelles sacrifiées. En parallèle, l'État désarmait méthodiquement la surveillance et les services de secours. L'Office national des forêts, ONF, pilier historique de la gestion publique des massifs, a été saigné à blanc. Près de 40% des effectifs ont été supprimés en 20 ans, retirant du terrain les les agents indispensables au diagnostic précoce, des départs de feu et de l'entretien des lignes par feu. De leur côté, les sapeurs-pompiers dénoncent le gel de leurs moyens structurels et la réduction budgétaire de la protection civile. Les soldats du feu, en sous-nombre chronique, sont envoyés face à des orages de feu indomptables créés par la seule géométrie industrielle. Pour couronner le tout, la hausse globale des températures mondiales et l'intensification des dômes de chaleur estivaux sont venus frapper ce territoire déjà fragilisé, multiplier le combustible inflammable, saboter la prévention humaine et ignorer l'assèchement de l'air. Voilà la formule mathématique de l'irresponsabilité. Vous avez soumis la gestion du territoire à une équation systémique suicidaire à trois paramètres où tous les curseurs ont été sciemment poussés vers l'emballement. Le CO2 atmosphérique mondial n'est pas le seul coupable des dômes de chaleur. En détruisant la fonction éponge des sols et la capacité de climatisation du vivant au profit d'intérêts financiers à court terme, vous avez détruit le cycle local de l'eau. La seule transition climatique qui va et commence par l'arrêt immédiat des coupes rases, le démantèlement des monocultures industrielles et la réintroduction massive de forêts mixtes et de systèmes agroforestiers diversifiés. Il est temps de réparer l'éponge terrestre.
Les multinationales déboisent l'Amazonie. Le désert avance en Afrique. Les forêts européennes dépérissent, atteinte d'une maladie de langueur. Tant qu'il y aura mort arbre, le poumon de la terre sera malade. On pensait l'orme invulnérable. Partout, l'orme se meurt ou agonise. On croyait le platane indéracinable. Il a suffi d'un champignon microscopique. L'arbre est né avant l'homme et mourra bien après lui. La patience du chêne. On confère un sommet pour la forêt. On accuse à tort et à travers.
Colette Magny, en 1991, sur l'album Kevork ou Le délit d'errance, où elle avait décidé, le temps d'un album, de parler des pintades et de glisser vers d'autres thèmes comme ça. Colette Magny, notre grande chanteuse avec une voix de blues, et finalement, je me rends compte, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais c'est chiant, qu'est-ce qu'elle chante là comme ça ? Elle nous raconte des trucs qui se passent. » Les multinationales déboisent, et puis ces mêmes personnes sont capables d'écouter un blues sans comprendre les paroles derrière, et si finalement vous leur filez une traduction de ce qui a été chanté dans les années 20, dans les années 30, etc., ben vous vous rendez compte que ces gens qu'ils admirent, dont ils disent « Ouah, c'est génial, il a une super voix et tout », et ben ils chantaient justement l'univers qui les entoure. Allez, j'ai effectivement rapporté le bouquin de Jean-Daniel Belfond, Anne Sylvestre Silvestre la magicienne, c'est paru chez un éditeur qui doit être en Normandie, puisque c'est le Cherche Midi, et je ne puis m'empêcher de faire le calembour stupide du Cherche Midi à 40 ans. Jean-Daniel Belfond a sorti Anne-Sylvestre la magicienne, il y a de cela quelques mois. On l'avait reçu, mais on n'avait pas beaucoup parlé de ce livre. Un livre qui est vu de manière... qui raconte la vie d'Anne-Sylvestre de manière subjective. C'est toujours comme ça que c'est le plus intéressant, c'est-à-dire que Jean-Daniel va pouvoir s'impliquer un petit peu dans tout ce qu'il nous raconte. Allez, je choisis le chapitre 12, Sorcière. Évidemment, vous vous doutez de quelle chanson ça peut se retrouver à parler. En octobre 1975, Anne-Sylvestre tient l'affiche du théâtre Montparnasse pour 4 semaines. Quelque chose a changé, certes. Elle se produit toujours sur scène avec Henri Droux à la contrebasse et n'abandonne pas la guitare. Pourtant, il y a du neuf. Il suffit de regarder la couverture de son nouveau 33 tours pour comprendre. Anne a changé de ton, de registre. Pour l'album précédent, elle avait choisi une photo de scène intime, élégante, cosy. Pour ce deuxième 33 tours des productions Silvestre, le registre est champêtre. Au verso de l'album, Anne est assise dans l'herbe, en jean, chemise en lin, col mao, foulard bandana sur la tête. Un clin d'œil à l'écologie qui a eu pour la première fois un candidat à l'élection présidentielle de l'an passé, René Dumont. Cerne plie autour de la bouche et du nez, Anne ne cherche pas à dissimuler son âge. Elle a fêté ses 40 ans l'année précédente. C'est un choix aussi d'apparaître vrai, sans apprêt, telle qu'elle est. Pas de sourire, il n'y en a jamais eu. En couverture d'un album depuis ses débuts, il faudra attendre Gémeaux croisés en 88 pour la voir joyeuse sur une couverture de vinyle. Pas de désir de séduire, de dissimuler, de jouer les affables. Ce qu'Anne a à dire est trop grave. Seule la vérité est supportable. La deuxième surprise est l'inspiration. L'album, une sorcière comme les autres, est peut-être le plus beau, le plus lumineux qu'elle ait donné depuis ses débuts, un ravissement. Cette inspiration coïncide avec un style nouveau, délibérément offensif. Anne, qui n'avait jamais affiché d'engagement politique marqué, est devenue, la chose est évidente, une militante. La cause défendue porte un nom, féminisme. Entre les chanteuses objets et les chanteuses à message, Anne a choisi son camp. Son apparence sans fard l'atteste, pour elle est venu le temps de dire ce qu'elle a sur le cœur. La première chanson de l'album passe souvent en radio. Une sorcière comme les autres résume des siècles d'oppression des femmes et est en passe de devenir l'hymne de combat féministe. Une chanson monument, 7 minutes. Anne déclarera souvent qu'elle déteste cette version trop longue, enregistrée avant d'avoir été frottée au public. Elle l'ignore alors, mais elle vient d'écrire la chanson la plus importante de sa carrière. Celle qui fait la césure entre l'artiste des 15 premières années, la mélodiste dont la verve et les refrains ravissaient l'oreille, et la femme accomplie, à la veille d'élaborer, dans les 45 ans qui suivront, une œuvre dense, riche, signifiante, essentielle. C'est la chanson passeport, la chanson de référence, le chef-d'œuvre d'une vie, celle qui sera désormais sa signature. Une chanson intime, où les traumatismes de l'enfance ressurgissent, celui du père emprisonné qu'elle ira voir à Fresnes, semaine après semaine, celui du frère aîné qu'elle a vu partir au bas de l'escalier en 1944 et dont elle attendra toute sa vie l'improbable retour. « J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. » Un hymne à la femme, à la sorcière dans toutes ses incarnations. Vierge, putain, Jeanne d'Arc ou Margot, la bûche et le feu. Sorcière dans l'acception tendre et puissante que ce mot revêt aux yeux d'Anne. Un poème à la musique élaborée. Pas moins de 5 thèmes mélodiques se succèdent. Alternance de douceur et de violence, de colère et de désespoir. Une fresque qui déroule 10 siècles d'oppression. Depuis le Moyen-Âge, si cette chanson marque les esprits, c'est aussi par sa richesse, ses entrées multiples, elle vous secoue, elle vous émeut. Quand elle chante « Ce n'est que moi, c'est elle ou moi », là, je suis renversé, je ne tiens plus debout, ce tout, ce son, le texte, la voix qui forme une sorcière comme les autres, je le prends comme un cadeau. À vous, son amie, la chanteuse France Léa. Lucien Rioux, qui tient la rubrique « Chansons du Nouvel Obs », conclut « Avec ses mots simples, ses phrases sans emphase, elle vient de composer une des grandes chansons de ce demi-siècle. S'il est un qualificatif qu'Anne ne désavouera jamais, c'est l'épithète de féministe. À chaque artiste, une cause, un sens à donner à sa vie, à son œuvre. La cause des femmes est sans doute celle qui a forgé son identité d'artiste. Anne est une sorcière, comme les autres, mais un peu plus que les autres. Elle a inventé l'expression qui s'est épanouie dans cette chanson cathédrale. L'oppression séculaire qu'ont subi les femmes, leur rôle de ventre, confiée à la perpétuation de l'espèce, cette oppression, donc cette fatalité, sur laquelle coulent les siècles, sans qu'elles puissent prendre en main leur destin, cette prédominance de l'homme en une société patriarcale où elles n'ont pas la voix au chapitre, une colère rentrée, larvée, qui ne dit mot. Depuis sa toute première chanson avouée, porteuse d'eau, elle est là, en filigrane, dans les chansons restant à écrire comme dans celles qui ont déjà pris forme. Anne n'a pas une vocation de tribun. Elle ne saurait à elle seule faire renaître un mouvement de contestation. Elle n'est pas une suffragette. Si elle réunit des spectateurs, c'est pour partager des émotions, pas des appels à l'insurrection. Comme un non-dit, une auto-censure, son état de fille de collaborateur lui impose-t-il une réserve? Comme si elle n'avait pas le droit d'avoir ses propres idées et de les clamer par guitare interposée. Si la parution des lauriers du lac de Constance en 1974 a révélé le passé de sa famille, ce passé qui l'oppresse toujours est trop tôt encore pour en faire état et par là même de s'en affranchir. Il lui faudra encore 20 ans avant d'en parler sans peur. Or, à partir de 1968, de l'apparition des premiers mouvements dans le signage du Women's Lib américain et du planning familial français, le regard des femmes change. Il est déjà étrange qu'en France, patrie des libertés, il ait fallu attendre 1944 pour que les femmes puissent voter, alors qu'en Allemagne, elles ont acquis ce droit en 1908. Et même, pour la Finlande, 1906. Avec une sorcière comme les autres, Anne impose une facette de sa personnalité, un versant qui comprend aussi bien Éléonore, mon mari est parti, que Prier pour la terre, des chansons qui disent plus long qu'on en a retenu. Je ne récuserai jamais le terme de féministe. Je l'ai été, je le suis, je le serai encore. Je n'aime pas ces mots en « iste », mais il n'y en a pas d'autre à la place. Je suis une femme qui avance, témoigne, et je n'abandonnerai jamais cela. 20 ans plus tôt, quand on l'interroge sur le féminisme, elle se cabre. On a tellement dit que les femmes féministes, c'était des moches, des vilaines, des stériles, etc., que ça fait très peur, le féminisme. On le manie avec des pincettes. Parfois, les gens viennent me demander avec précaution si je suis du MLF. Je réponds qu'on ne s'inscrit pas au MLF, parce que ce n'est pas un parti. Mais quand on est une femme et qu'on est en mouvement, on va naturellement, forcément, vers une libération. Dans mes chansons, j'essaye de présenter ça simplement et les gens ont un peu moins peur. Mais il arrive un moment où, sans renier les autres et soi-même, on ne peut pas dire « Moi, je n'en suis pas. » Oh, regrette. Moi, je suis sur le bateau. On ne va pas, quand on est sur le pont, renier les moteurs du bateau. Avec le recul, elle estime s'être inscrite dans l'air du temps. Ces chansons, je les ai écrites à une époque où il y avait comme un faisceau d'écriture qui se retrouvait. Je pense à des écrivains comme Marie Cardinal, Benoît de Groux, Annie Leclerc. Le mouvement des femmes se retrouvait dans les choses que l'on écrivait. Tout ça se rejoignait, on disait les mêmes choses. C'était une sorte d'imprégnation. Avec une sorcière comme les autres, j'ai rendu compte d'une série de choses, d'idées, de pensées, de sentiments que les femmes mettaient au jour. Quel rôle jouèrent les chansons d'Anne Sylvestre dans le mouvement féministe? Interrogée, Benoît de Groult, romancière qui fut proche d'elle, estime qu'elle en dit parfois autant en quelques lignes sur nos angoisses, nos nostalgies ou nos enthousiasmes que bien de savantes analyses. Toutes ces paroles font sourire, réfléchir, s'attendrir et souvent les trois à la fois, avec légèreté mais aussi lucidité, sur un ton goguenard mais qui n'exclut pas la tendresse ou la poésie, elle réussit à aborder tous les aspects de la vie d'aujourd'hui, celle des femmes surtout. Quand on demande à Anne si les luttes féministes des années 70 et 80 ont abouti, elle montre un certain scepticisme. Il y a eu des acquis sur des choses précises, mais on continue à dire aux petits garçons « pleure pas comme une fille ». On continue à dire aux filles qui veulent bricoler « non, non, non ». À travail égal en France, les femmes continuent à être moins payées. Dans les mentalités, ça n'a pas changé. On continuera à faire des plaisanteries grossière sur les femmes, et tout le monde rira. C'est ce qu'elle exprime en 81 dans Xavier, chanson où un garçonnet qui berce un ourson est sommé par l'entourage de la maman de troquer sa peluche pour une auto, sous peine de voir surgir un avenir peu viril, et l'enfant d'utiliser à sa façon le bolide en faisant « fais dodo à l'auto ». Non, nous dit Anne Sylvestre, ne contrarions pas nos enfants au nom de valeurs arbitraires, n'entravons pas leurs besoins de tendresse. Un mouflet tendre, pas davantage qu'une fille au comportement de garçon manqué, ne devient pas tout à coup un adulte à la sexualité hors de la norme. D'autres chansons sont des réponses mordantes à des siècles de domination masculine. La vache engagée, ce millésime 75 proclamé année de la femme, preuve, s'il en fallait, que ces messieurs avaient soudain senti l'urgence de songer au sort de l'autre moitié de l'humanité, sonne comme une réplique mordante à cette initiative. Les vaches ont une âme aussi, c'est le laitier qui me l'a dit. À cette mise en parallèle entre les revendications des femmes en lutte et celles des bêtes à cornes, Anne adjoignait une fausse chanson à boire, Java d'autre chose, montrant la prétendue vertu des maris et le sort peu enviable de leurs femmes. Et parlons de Jean-Baptiste, bon époux, bon catéchiste, qui aime tant ses enfants qu'il en fait deux tous les ans. Une chanson pour dire la difficulté de vivre à deux et de s'aimer dans la durée, Mariette et François, une autre parce que l'amour n'est pas toujours réciproque, l'éternelle histoire, et l'enfant qui pleure au fond du puits. Un des chefs-d'œuvre d'Anne Sylvestre sur une mélodie bouleversante, c'est relatif à l'enfant que l'on a à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'adulte qui regrette sans doute les choses, explique-t-elle. Une chanson composée au moment où sa mère est plongé dans le coma. Chanson dont, chose rare, elle modifiera les deux derniers vers plus tard pour qu'elle s'achève sur une note moins sombre. L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. Oh, s'il vous plaît, murez le puits. Je ne veux plus l'entendre. Ça devient surtout ne murez pas le puits. Il est temps de l'entendre.
L'enfant qui pleure au fond du puits sans qu'on veuille l'entendre. L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. L'enfant qui pleure avait gardé tous les soleils, tous les étés, goûté l'eau de tous les ruisseaux, volé avec tous les oiseaux. Elle savait aimer si gai, elle pouvait aimer si vrai, que l'amour même le plus fou devait fleurir à ses genoux. L'enfant qui pleure au fond du puits a rêvé des merveilles. Pour pas l'entendre, moi je fuis, me bouchant les oreilles. Elle avait des sourires d'eau, des rires fleurs, des rires chauds. Elle avait des larmes de blé quand quand elle retenait l'été. Elle attendait d'autres moissons, d'autres envols, d'autres saisons, qui lui défroisseraient le cœur, qui lui feraient pousser des fleurs. L'enfant qui pleure au fond du puits possédait les nuages, se tressait des nattes de pluie pour ses dimanches sages. Quand elle parcourait les champs, une colchique entre les dents, niant que ce fût un poison, la plante lui donnait raison. Quand elle déclarait au vent, restez, vous êtes mon amant, elle était libre et croyait bien pouvoir courir tous les chemins. Nous avons chacun notre puits où meurt un enfant tendre. Nous l'entendons pleurer la nuit sans jamais bien comprendre. Mais nous abandonnons l'enfant, nous faisons trois pas en avant. On nous décore, on nous dit oui, maintenant vous êtes guéri. Et nous découvrons le bonheur, une étagère pour le cœur. Le vent se calme et les étés coïncident avec juillet. L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. Oh, s'il vous plaît, murez le puits, je ne veux plus l'entendre.
Eh bien, si vous avez bien suivi, ça c'était la version d'origine. Dessous de scène, il est 16h52, dans 8 minutes sur l'antenne de Radio Libertaire, ça sera Bulle Noire, et je ne sais pas, je n'ai pas la confirmation, s'agira-t-il d'une émission consacrée aux zombies ? Nous découvrirons cela dans 8 minutes, plus 2 minutes 17 de générique. Michel, as-tu un dernier texte à nous proposer ?
Je ne sais pas trop. J'ai des petites phrases là qu'ont écrit certains hommes au sujet des forêts. Par exemple, Onésime Reclus qui disait « Le salut de la montagne est dans le reboisement, le salut des plaines est dans le reboisement, le salut des rivières est dans le reboisement, le salut de la terre est dans le reboisement. » Comme quoi, et c'était marrant parce qu'il y a une époque où vraiment ça préoccupait beaucoup plus les gens, ils se rendaient beaucoup plus compte. Ils voyaient disparaître les forêts. Et maintenant, on a l'habitude qu'elles ne soient plus là, mais c'est assez horrible. D'ailleurs, il y a un coup. Alors là, c'est bizarre d'en arriver là. Il y a un couplet, vous allez deviner de quelle chanson il s'agit, un couplet qu'on n'a pas l'habitude de chanter. Je vous mets à la musique. « Arbre chéri, deviens le gage de notre espoir et de nos vœux. Puisses-tu fleurir d'âge en âge et couvrir nos derniers neveux. Puisses-tu fleurir d'âge en âge et couvrir nos derniers neveux. Que sous ton ombre hospitalière, le vieux guerrier trouve un abri, que le pauvre y trouve un ami, que tout Français y trouve un frère. » Qui a deviné de quelle chanson il s'agit ?
Michel, tu aurais dû apporter ton banjo pour nous la faire.
C'est-à-dire que je viens de découvrir ça dans le bouquin maintenant, oui. Ça sera pour la prochaine fois, alors d'accord.
Bon, ben, on va bientôt se quitter et céder l'antenne à Bulle Noire. Mais comme j'avais promis quand même au début de glisser un grand chêne de Tonton Georges, mais malgré tout, allez, je vous le glisse, il me semble, en version venant de l'autre côté des Pyrénées.
Mi viaje rompe toda ambición forestal. No era para nada un árbol especial. No había visto ni la sombra del leñador, aquel gran roble gigantón. Él hubiera tenido una vida mejor de no ser por las plantas de su alrededor. Caña días de la peor condición vegetal, burlándose hasta hacerle mal. Desde el día a la noche, sin interrupción, las cañas se reían de su proporción, le cantaban a coro ese cuento moral del roble y el cañaveral. Y aunque son de madera, los robles en verdad tienen su sentido de la vida. Así que se cansó ya de hacer de bufón y al exilio se marchó. Con gran pena sacó sus raíces de la tierra y se fue sin volver la vista atrás. Pero yo que lo vi, sé muy bien que sufrió dejar la patria en que nació. A la orilla del bosque, el roble tristón trabó amistad con unos novios de ocasión. Le pidieron grabar en el tronco su amor y el roble no dijo que no. Cuando hubieron calmado su sed de pasión y de besarse estaban sin respiración, conteniendo el aliento, le oyeron contar al roble su felicidad. Gran roble con nosotros, puedes venirte ya, nuestras plantas saben vivir en hermandad. Varias veces al día te van a regar, allí vas a encontrar la paz. Dicho esto, los tres se pusieron a andar, cada uno iba llevándolo de una rama. Qué dichoso que estaba en aquel día feliz el roble junto a un gran jardín. Al pie de su cabaña lo hicieron plantar y el roble pronto se empezó a desengañar, pues de riego hubo solo la lluvia y quizá algún perro que fue a orinar. Sus bellotas nutrieron a un cerdo glotón, con su corteza hicieron corcho de tapón, y hasta cuando tenía uno que ajusticiar, al roble lo iban a colgar. Luego esta gentuza vandálica y brutal, para hacerse una cama lo hicieron cortar, y como ella tenía más amantes que él, pronto se lo vio envejecer. Un triste día, por fin, esta pareja cruel lo pasó por el hacha y lo puso a arder. Igual que una madera vulgar de cajón, el roble murió en un fogón. Nuestro cura, un santito bisoño, opinó: no creo que ese humo haya subido a Dios. ¿Qué sabrá ese bribón? ¿Quién le habrá dicho a él que no hay robles en el Edén? Que no hay robles en el Edén.
Le Grand Chêne de Tonton Georges, mais par Horacio Servan en 2021, version espagnole, effectivement. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, c'est effectivement tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Et je vous rappelle que le temps de cette émission, une hirondelle a bouffé 180 insectes, 51 chiens et chats ont été abandonnés, et vous avez sécrété 5 centilitres de salive, c'est-à-dire l'équivalent de 2 verres à whisky, ce qui signifie que vous allez sécréter un petit peu plus de 2 verres à whisky le temps de bulle noire.
T'as bien capté, bulle-noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. tout libertaire.
T'as bien capté bulle noire, tu libertaire, radio libertaire. On va parler de Paula, tu libertaire, radio libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur libertaire,
radio libertaire.
On va parler de Paula, sur libertaire, radio libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et bien un bulle noir un peu particulier, un bulle noir de 1er août d'une certaine façon, un bulle noir qui va être consacré aux robots dans la littérature de science-fiction, au cinéma, et puis un petit peu dans la bande dessinée, et puis aussi les collections de robots, puisque la dernière fois, nous avions Didier Serplet avec nous, qui nous a parlé longuement de sa collection de robots, et qu'il a une très très jolie collection, du reste. Et alors, les robots, c'est globalement dans la littérature fantastique, dite de science-fiction, que l'on retrouve le monde des robots, ou la littérature, ou la bande dessinée, ou le cinéma, ou les nouvelles, évidemment, et la musique, évidemment, parce que les morceaux que nous avons choisis ont tous trait aux robots. Alors, les robots chantés par Kraftwerk ou par Jacques Higelin. Vous entendrez donc une sélection durant ces 2 heures d'émission consacrée aux robots. Mais comme c'est de la science-fiction, on va citer le Jacques Sadoul, un grand expert, qui dans son histoire de la science-fiction moderne qui était parue chez J'ai lu, le domaine anglo-saxon, il nous présentait ce que c'était la science-fiction, et je lis juste le texte qui correspond à sa vision et ce que c'est pour lui que la science-fiction. Alors, là, d'une part, d'écouter peut-être ce que raconte Jacques Sadoul, on va ouvrir en musique, parce que le petit Nicolas me fait un signe me disant « ça serait bien de commencer quand même par un morceau de musique, t'en mets jamais ». Et donc, on va écouter Science Fiction, justement, un morceau de la comédie musicale que vous avez sans doute vu, qui est le Rocky Picture Horror Show. Je l'ai peut-être dit dans le désordre, du reste. Hein, très certainement, je l'ai dit dans le désordre, c'est ça.
The Rocky Horror Picture Show.
Voilà, mais ça c'est ma dyslexie habituelle. On va écouter ce titre science-fiction. Alors vous allez entendre dans ce morceau extrait de ce film que tout le monde a vu, qui est une espèce de film culte. Vous allez entendre donc